Philosophie du vivant, Père Philippe, 3 novembre 1983 à Saint-Joseph.
La dernière fois, je vous ai montré à propos de la philosophie du vivant que le premier problème qui se posait pour le philosophe, c'était d'essayer de comprendre en cherchant la cause. Cette dualité qui est en nous, entre intérieur et extérieur. Comprendre comment la diversité des opérations impliquait une unité. Et ceci me conduit à poser un principe, puisque s'il y a une unité, il faut qu'il y ait un principe. Dans la diversité, toute diversité qui implique une certaine unité, c'est-à-dire toute diversité qui implique un certain ordre, implique nécessairement un principe. Ça, c'est philosophiquement qu'il faut le comprendre. Or, je vois qu'il y a une diversité de mes opérations intellectuelles, qu'il y a un ordre dans ces opérations, donc il faut qu'il y ait un principe. Ce principe du vivant, je l'appelle l'âme. Alors, je vous ai déjà dit, et je crois que ça, ce serait très intéressant à préciser, comment le terme âme n'est pas philosophique, qu'il relève des traditions religieuses. Ce n'est pas les philosophes qui ont inventé l'âme, comme le terme. Ils ont découvert l'âme, comme ils découvrent l'être premier. Mais ces deux, je crois que ces deux termes, Dieu et âme, sont des termes de tradition religieuse. Toutes les traditions religieuses parlent de l'âme. Toutes les traditions religieuses parlent de Dieu. Et le philosophe essaie de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce principe radical de toutes nos opérations, l'âme et le corps, j'ai pas besoin de l'aduire, il est suffisamment encombrant. Alors, pas besoin de l'aduire, je le touche, il est là, présent, je le sais. Bon, alors mon corps, je l'aime, c'est un compagnon, mais je sais qu'il est là, présent, pas besoin de l'aduire. Mon âme, je dois la découvrir. Je ne découvre pas mon corps, il se manifeste assez. Tandis que l'âme, je dois la découvrir. Je découvre l'âme au plus intime, comme source de toutes mes activités. Je découvre l'âme comme source de toutes mes activités et comme immanent à toutes ces activités et comme étant aussi forme de mon corps. Là, il y a un très gros problème que je ne traite pas ici, puisque ceci est présupposé connu, encore une fois. C'est présupposé connu, on l'a vu l'année dernière. Et on va continuer, tout simplement, parce qu'autrement, on resterait très, très, très longtemps. C'est un gros problème. La découverte de l'âme comme principe d'unité de toute la diversité de mes opérations vitales. Et de là, je pose que ce principe d'unité de toutes les opérations vitales, il joue le rôle de forme. Il faut bien comprendre comment j'aboutis à ça. L'induction n'est pas directement sur la forme. L'induction est par rapport à un principe 1 d'efficacité. Une source de toutes mes opérations vitales. Et je réfléchis ensuite sur cette source, et je dis cette source, elle détermine le corps. Mon âme détermine mon corps. Mon âme est forme de mon corps. Et forme de mon corps, donc, au point de vue de l'être. Parce que je saisis d'abord l'unité des opérations, et de là je pose le point de vue de l'âme comme forme du corps. Mais je n'ai pas une induction directe. Et ça, c'est peut-être une des choses qu'il faut beaucoup, beaucoup préciser. Parce que c'est peut-être à cause de ça que peut-être on n'a pas mieux vu ce que représentait le point de vue de l'induction de l'âme comme principe d'efficacité de mes diverses opérations. Comme ces opérations impliquent un élément sensible, quand je mange, quand il y a la croissance, quand j'imagine, quand je suis pris par la passion, tous ces éléments impliquent un corps, impliquent des éléments sensibles. Donc, ces opérations sont liées au corps. Et sont liées au corps d'une façon telle que le corps n'est pas seulement un instrument, mais que le corps est lui-même source. Et c'est en ce sens-là que je pourrais déterminer que l'âme est principe formel du corps. Principe selon la détermination du corps. Et l'âme est aussi l'acte du corps. Vous voyez, retenez ces trois formules, même si maintenant ça ne vous dit pas énormément de choses, c'est important à comprendre. Je saisis d'abord l'âme comme source, principe, déficience, d'unité, des diverses opérations. Puis je réfléchis sur ce principe des diverses opérations, parce que ces opérations m'obligent de poser l'âme comme forme du corps. Forme substantielle du corps. Puis je pose l'âme comme acte du corps. Les trois grandes affirmations. L'âme par rapport à mon corps. L'âme par rapport à mon corps est source efficiente de mes diverses opérations. Elle est la forme du corps et elle est l'acte du corps. En disant forme, je montre que mon âme détermine le corps et en disant acte, je vois que mon âme finalise mon corps. Je vis pour que mon âme soit de plus en plus mon âme. C'est-à-dire qu'elle se développe de plus en plus. Qu'elle soit la fin. L'acte, c'est l'acte. Voilà les trois grandes affirmations qu'on avait développées l'année dernière, qui est très important à bien comprendre, parce que ça nous aide à saisir comment l'âme alors, est quidité du corps. Ça, c'est très très astucieux. Traduisez, quidité. Quidité. C'est un mot qui est classique. Hein. C'est un mot qui est classique, parce que même des gens qui ne sont pas tenus, c'est un mot quidité. C'est un mot classique. C'est le mot d'Aristote, c'est le mot qu'Aristote a inventé, le totienainain. Vous savez bien comment il faut traduire totienainain. L'être du caisse. Qu'est-ce cette réalité ? Alors, dans l'être, dans le fait d'exister, on cherche ce qu'il y a de premier, dans l'ordre de l'intelligibilité. Et ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, dans une réalité qui existe, c'est sa quidité. Sa quidité exprime le noyau central d'intelligibilité. Le noyau central d'intelligibilité, ce qu'il y a de plus intelligible, ce qui est source de toute intelligibilité de la réalité, c'est ce qu'on appelle la quidité. Faut savoir. Donc c'est source de toute intelligibilité, c'est l'âme. L'âme donne donc l'intelligibilité du vivant. C'est pour ça que je vous avais dit que ça pose un problème par rapport à la biologie. La biologie ne saisit pas l'âme et la biologie veut donner l'intelligibilité du corps, du vivant. Or, l'intelligibilité profonde du vivant n'est saisie que quand je saisis l'âme. Ce qui montre que l'intelligibilité du biologiste ne regarde que l'aspect du conditionnement du vivant, et non pas le vivant. Pour saisir l'intelligibilité du vivant, il faut saisir son âme. Bon. Je n'insiste pas plus là-dessus. Si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, c'est difficile, c'est très vrai, c'est très difficile. Ça pose tant de problèmes. Il faut savoir que, de fait, le premier problème de la philosophie du vivant, c'est de saisir l'âme, la psyché. La principe selon la forme de ce qui est. Cause du vivant. Donc, source de toutes ces opérations vitales. Premier problème, c'est celui-là. Deuxième problème. Mettre un ordre à l'intérieur de la diversité des opérations vitales. mettre un ordre. La question de l'ordre parmi les opérations vitales. Les opérations vitales sont multiples, c'est bien évident. Depuis le sommeil, qui est une opération vitale, au ralenti, on s'est mis au point mort, le sommeil, on reste stagnant. Donc, depuis le sommeil jusqu'à la contemplation, en passant par la nutrition, le petit déjeuner, la croissance, en passant par le point de vue de la sensibilité des sensations, par le point de vue des passions, par le point de vue de l'imagination, par le point de vue de la réflexion intellectuelle, par le point de vue d'un amour qui revient toute ma vie. Donc, du sommeil à la contemplation, il y a un ordre dans toutes ces opérations. Comment ordonner ces opérations ? Comment découvrir dans cette très grande complexité du vivant qui est l'homme, découvrir un ordre ? Ça, ça présuppose toute une réflexion sur cette diversité. Je vois que certaines de ces opérations sont liées au corps d'une manière telle que leur objet propre est lui-même lié au monde physique. Par exemple, la nutrition. La nutrition, pour pouvoir me nourrir, il faut quand même qu'il y ait un aliment. Si on vous sert un plat vide, vous direz non. Enfin, vous aurez beau imaginer, mais vous n'arriverez pas à l'alimentation. La nutrition exige la présence d'un aliment. Je suis donc dépendant du milieu. Il y a toute une partie de ma vie de vivant, qui dépend du milieu. Un milieu vital par où je suis capable de respirer. L'oxygène, ma respiration. C'est la première nutrition, il ne faut pas l'oublier. Ma respiration. Qui me lie à un milieu. Si le milieu n'a plus d'oxygène, je ne peux plus respirer. Donc je suis dépendant. Il y a toute une série d'opérations à moi qui dépendent immédiatement du milieu vital dans lequel je suis. Donc je saisis là la dépendance du vivant que je suis à l'égard du milieu. C'est très bien saisi. Quand vous dormez, vous êtes dépendant du milieu vital. Si on fait du chêne autour de vous, hein, vous savez bien, on ne peut pas dormir. Impossible de dormir avec ce chêne. Donc vous êtes pas. Le chêne, ça vient de la dépendance vitale dans laquelle vous êtes. Tout simplement, vous dépendez du milieu vital. Impossible de manger parce que ce qu'on sait, le pain n'est pas mangeable. Impossible de respirer parce que l'air est asphyxié. Vous dépendez du milieu, donc dépendance. Or, le vivant, c'est celui qui a une certaine autonomie. Donc, le degré le plus infime de la vie est révélé par ces opérations qui dépendent du milieu vital dans lequel je suis. Milieu physique. C'est évident. Quand il pleut ou quand il y a du soleil, c'est pas la même chose pour le vivant. De vie fondamentale. Pour votre intelligence, c'est la même chose. Qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, ça revient tout à fait au même. Si vous êtes vraiment intelligent. Si vous n'êtes pas très intelligent, ah oui, c'est pas la même chose du tout. Alors, c'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Si vous étiez suffisamment intelligent, plus d'espèce d'importance. Mon intelligence ne dépend pas du soleil. Tandis que la petite plante végétative qui est en moi, la petite plante végétative qui est en moi dépend du soleil. Il y a une petite plante végétative en moi. Et c'est pour ça qu'on dira, premier degré de vie, la vie végétative. Je discerne en moi toute une zone de vie végétative. Je discerne en moi toute une zone de vie végétative. Mon corps fait partie de la vie végétative. Il est comme une plante. Il a besoin de respirer, il a besoin de manger, il a besoin de dormir. Il y a les cheveux qui tombent aussi, vous voyez, ça fait partie de l'automne, de l'hiver. Il est dépendant du temps, il est dépendant du milieu dans lequel il est. Ça, c'est la vie végétative. Je ne peux pas séparer ce milieu de vie dont je dépends. On a fait des expériences très intéressantes au Canada pour voir jusqu'où on dépendait de ce milieu vital. On a essayé d'isoler. Techniquement, enfin, jamais isoler complètement, mais techniquement on peut essayer d'isoler le plus qu'on peut. Et on a vu que l'homme et la femme résistaient différemment au point de vue du milieu vital. La femme a l'indépendance plus grande que l'homme. Je ne sais plus les chiffres, parce que ça c'est des choses qu'on oublie. Je me souviens d'une conférence, dernier cri à Faubourg, qu'avait fait le biologiste sur ça, c'est très intéressant. C'était très amusant de voir ça, comment, de fait, parce qu'évidemment, on vous met dans une situation où vous n'entendez plus rien, vous êtes complètement isolé, le plus possible. On ne fait pas le vide, hein, mais le plus qu'on peut. Et puis alors on dit, si vous n'en pouvez plus, si vous devenez fou, appuyez sur le bouton. N'est-ce pas ? Alors l'homme résiste des heures, et la femme résiste encore beaucoup plus. Presque un tiers de plus. Autrement dit, elle a un milieu vital immanent plus fort que celui de l'homme. Parce qu'au fond, l'homme est plus dépendant de son milieu extérieur. Mais soyez indulgents pour les hommes, ils sont plus dépendants du milieu extérieur des femmes. Maintenant, ils sont plus souvent mauvais. C'est à cause de ça. Parce qu'ils sont plus dépendants du milieu vital dans lequel ils sont. C'est normal, biologiquement parlant. Parce que le milieu vital dans lequel on est, l'homme est plus dépendant de son milieu vital que la femme. C'est très, très connu. Mais ça montre, vous voyez, qu'au fond, il y a en nous un degré de vie végétative dans lequel nous dépendons de ce milieu vital. L'aliment, l'oxygène, le contexte extérieur. Deuxièmement, je constate qu'il y a d'autres opérations où l'immanence est plus grande. En ce sens que tout est davantage porté en moi. C'est tout ce qu'on appelle la vie sensible. Ça, c'est propre, la vie végétative, c'est propre aux plantes. La vie sensible est propre à l'animal. Il y a une vie sensible en moi. La vie sensible est plus indépendante que la vie végétative. Elle est plus indépendante. Pourquoi ? Parce que cette vie sensible, je la porte davantage en moi. Autrement dit, j'ai une autonomie plus grande. Dans la vie sensible, jusqu'à l'imagination, je peux m'imaginer un tas de choses que je peux porter en moi et que je porte en moi. Mais l'imagination dépend des sensations et les sensations dépendent d'une présence. Je ne peux pas imaginer sentir indéfiniment ou voir indéfiniment. Je peux un instant imaginer ce que j'ai déjà vu. Alors je m'imagine cette chose merveilleuse que j'ai vue, je m'imagine. Mais au bout d'un certain temps, ça s'estompe. Autrement dit, une espèce de la vie sensible ne se ressource pas en dehors de la sensation. Et la sensation exige une présence physique. Ah, c'est pour ça que la vie sensible est bien indépendante du milieu vital, et cependant elle dépend du milieu vital encore. Mais elle dépend du milieu vital d'une façon différente que la vie végétative. Et alors pour bien souligner cette différence, on dira que la vie sensible a une indépendance dans l'ordre intentionnel, ce que n'a pas la vie végétative. Donc elle a une indépendance intentionnelle. Je porte en moi les formes intentionnelles de la couleur, du goût, de l'odorant. Là, c'est l'exemple classique, si vous voulez, du petit déjeuner. Vous allez tout de suite comprendre. Petit déjeuner que vous prenez le matin quand vous circulez pas ici au couvent, mais quand vous circulez auprès du boulanger, voilà, la cuisson des petits pains le matin. C'est merveilleux, ça sent très très bon, et surtout si vous n'avez encore pas déjeuné. Si vous avez déjeuné, vous sentez moins bien. Et si vous n'avez pas encore déjeuné, vous sentez ça admirablement. Et vous pouvez vous arrêter pendant 10 minutes et prendre votre petit déjeuner intentionnellement. N'est-ce pas ? C'est merveilleux, vous prenez des petits pains frais, ça ne coûte rien, c'est ça l'avantage aussi. Vous voyez, c'est tout à fait gratuit. Alors intentionnellement, vous prenez ce petit déjeuner admirable. Si au bout de 10 minutes que vous êtes là, on dit c'est suffisant, maintenant tu as bien déjeuné, qu'est-ce que vous direz ? Ah non, pas du tout, maintenant je vais manger. Vous voyez, vous passez la vie sensible à la vie végétative. Et vous comprenez que le réalisme, il est dans la vie végétative. Il faut manger de petits pains. C'est pas suffisant de le sentir. C'est très bien de le sentir, mais c'est pas suffisant. Alors vous voyez, il y a là une petite expérience très facile que nous avons tous fait et que nous pouvons tous faire, n'est-ce pas, qui montre bien la différence entre la vie sensible, indépendante. C'est indépendant. Je ne retire rien à la boulangerie. Je ne retire rien à la boulangerie en étant tout simplement face, m'arrêtant en face d'elle et respirant. On ne va pas vous dire « payez-moi votre petit déjeuner ». Non, pas du tout, je respire. C'est ce bon air qui est extraordinaire, qui sort du four, n'est-ce pas ? Mais ça ne coûte rien. Tandis que si je veux manger le petit pain, ça coûte. Oui. La vie économique est au niveau de la vie végétative. Et elle n'est pas du côté de la vie sensible. La vie sensible, c'est la gratuité de la vie, ça. C'est le premier moment de la gratuité. C'est du côté de l'intentionnalité. C'est quand l'intentionnalité commence qu'il y a une gratuité. On verra ce que c'est que l'intentionnalité, parce que c'est très très important. Mais c'est important de voir que dès que je parle du passage de la vie végétative à la vie sensible, je suis en face d'une gratuité. Troisième moment, troisième degré que je peux analyser, troisième degré, ce que j'appelle la vie spirituelle ou la vie intellectuelle. Alors je suis encore beaucoup plus indépendant du milieu, mais je crois il y a une croissance dans l'indépendance. Ça, c'est très vrai. Il y a une croissance dans l'indépendance. Dans la vie végétative, je suis totalement dépendant du milieu. Dans la vie sensible, j'ai une certaine indépendance. Et l'imagination me montre bien cette indépendance. Et dans la vie intellectuelle et spirituelle, je suis totalement indépendant. Au moins, je le crois. D'où naissent les idéologies. Parce que je crois que je suis source du milieu. Pas du tout. En réalité, je dépends encore. Quant à l'origine, parce que ma sensation, mes sensations dépendent du monde physique. Or, toute ma vie intellectuelle dépend de ma vie sensible. Donc, il y a une dépendance du côté de l'origine, du côté génétique, et il y a l'indépendance du côté de la spécification. Ça nous verra. Indépendance du côté de la spécification, dépendance du côté de l'exercice. Alors, vous avez là donc les trois degrés de vie. C'est ça qu'on appelle les trois degrés de vie. Ça, c'est une chose extrêmement importante à comprendre. Les trois degrés de vie. Vie végétative, vie sensible, vie spirituelle. Alors, si je suis chrétien, j'ajouterai un quatrième degré de vie, la vie divine. Et en tant que philosophe, j'en ai que trois. Trois degrés de vie. Et ces trois degrés de vie s'organisent d'une manière autonome, avec certaines dépendances. Donc il y a une autonomie, une indépendance. La vie fondamentale qui est en moi, celle qui ne dépend d'aucune autre. Dépend de tout. pas entièrement vrai. Celle qui est fondamentale, disons celle qui est fondamentale, c'est ma vie végétative. Ma vie végétative, elle est fondamentale. En ce sens que quand je commence à avoir mal à l'estomac, il y a une répercussion sur ma vie sensible et une répercussion sur ma vie intellectuelle. Si j'ai le pancréas qui est abîmé, il y a une réaction fatale sur ma vie sensible et ma vie spirituelle. Mais ma vie végétative a son ordre propre. Et elle a sa finalité propre. La finalité de la vie végétative, c'est la procréation. La survivance de l'espèce, c'est la procréation. Ça, c'est la finalité. La vie végétative est finalisée par la procréation. Donc, c'est dans la procréation que la vie végétative prend toute sa signification. Ça, c'est très, très important de bien se le rappeler. Très, très important. Et c'est par là qu'on peut comprendre certaines choses que dit Freud. Et saisir qu'il y a des choses justes et puis en même temps des choses fausses. Mais c'est important de voir que toute la vie végétative prend toute sa signification dans la procréation. Parce que c'est par là que l'individu peut survivre. La survie de l'individu se fait par la procréation. L'individu peut continuer d'exister grâce à un autre individu qui provient de lui et qui a même espèce. La vie végétative, donc, si elle a une finalité propre, elle a toute son organisation propre. Et toute la vie végétative a son organisation propre, ayant sa finalité propre. C'est la vie la plus organique. C'est là où je saisis le mieux combien le vivant est un être organique. Et organique, c'est-à-dire présentant un tout qui a son autonomie et qui a une complexité, une grande complexité. Alors ça serait très intéressant au point de vue biologique de voir tous les progrès qu'on a fait en connaissance de la vie végétative comparativement à Aristote. Aristote a des connaissances très simples sur la vie végétative qui sont justes. Si vous regardez la biologie moderne, on peut dire que toute la biologie moderne, c'est d'essayer de comprendre la complexité de la vie végétative. La vie sensible, parce que c'est celle-là auquel nous allons nous arrêter. La vie sensible est une vie anarchique. C'est ça qui va la caractériser. Elle n'a pas de finalité propre. C'est pour ça qu'elle est toujours si fatigante. Elle n'a pas de repos. Il n'y a pas de repos de la vie sensible. C'est affolant, mais c'est comme ça. Donc si vous cherchez la vie, si vous cherchez à organiser la vie sensible, vous n'arriverez jamais. Ça ne s'organise pas. Donc c'est le théâtre de l'anarchie. La vie intellectuelle, spirituelle, elle, au contraire, a une finalité propre. La contemplation. La contemplation qui donne la signification profonde à toute notre vie spirituelle. Vous voyez donc que dans l'âme, il y a deux points de stabilisation. La procréation et la contemplation. C'est quand même très curieux. Et il y a quelque chose qui zèle la zizanie et qui est source d'anarchie, la vie sensible. C'est pas à cause de ça que la vie sensible est mauvaise, hein. C'est pas à cause de ça, mais c'est elle qui mène l'anarchie. La vie végétative a son autonomie et son organisation propre, sa stabilité. La stabilité de la vie sensible, de la vie végétative, c'est la procréation. C'est ça qui stabilise l'homme. Très curieux, qui stabilise la femme, la procréation. Ça, c'est la stabilisation. C'est ce que les psychologues mettront en pleine lumière aujourd'hui. Mais voyez, hein, Voilà toute la différence avec les psychologues, c'est que nous voyons trois degrés de vie. Nous ne disons pas que la vie végétative stabilise la vie sensible et la vie spirituelle, pas du tout. La vie sensible, la vie végétative a sa propre finalité de vie végétative. Il y a un animal en nous, à mille pattes, il y a un animal en nous qui est assez particulier. Et cet animal en nous cherche à se stabiliser par la procréation. C'est ça qui stabilise l'animal, la vie végétative. Je veux dire, c'est même plus que l'animal, la vie végétative. C'est quelque chose encore plus radical. Tandis que la vie sensible, pas de stabilisation. Donc il faut tout le temps s'y reprendre. Il ne faut jamais dire, maintenant ma vie sensible est stabilisée. Jamais. C'est un volcan. C'est un volcan qui peut faire des éruptions à tous les âges. Évidemment, les éruptions ne sont pas les mêmes à 16 ans qu'à 60 ans. Ce n'est pas les mêmes crachats. Vous voyez ? C'est différent. C'est différent. Ça prend quelque chose de particulier. Parce que c'est les larves ont une qualité différente et une chaleur différente. Mais c'est un terrain volcanique. C'est le terrain volcanique qui est sensible. Et la vie intellectuelle, c'est au contraire ce qui nous ennoblit d'une façon ultime et qui nous donne une finalité nouvelle, la contemplation. Ce qui pose le problème, vous voyez, comment le même être, l'homme, c'est parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est l'homme. C'est ce vivant particulier qui est l'homme. Il a en lui trois orientations différentes. Une orientation qui stabilise la vie végétative, c'est fondamental. Une orientation anarchique, si on est plus ou moins sensible. Et puis, quelque chose de spirituel qui stabilise par le sommeil. Alors on doit se poser la question, ça on la posera au terme, hein. Est-ce que la vie spirituelle peut être la seule finalité? Ou est-ce que nécessairement il y a la finalité de la vie végétative? Ça, c'est une très grosse question et c'est très intéressant de la traiter au niveau de la philosophie du vivant. Vous voyez, indépendamment du point de vue moral, uniquement du côté de la vie. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'alors là, à partir de ce moment-là, vous comprenez, on peut essayer de comprendre bien au-delà du psychologue quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ça, il faut constater ça d'abord. Il faut d'abord constater qu'il y a trois orientations de vie en moi. Et cette constatation se fait par l'analyse de la diversité de mes opérations. Certaines de mes opérations dépendent directement du milieu vital. Certaines de mes opérations ont une certaine indépendance de structure par rapport au milieu vital, mais elles dépendent encore dans leur point de départ. Et puis certaines opérations ont une autonomie complète. Le cogito, quand je pense, quand je médite, c'est la réflexion de ma petite fille, hein. C'est pas drôle d'avoir un papa philosophe, parce qu'il est absent. Il médite. Il est absent. Il est dans son monde. Il est dans son monde, dans sa bibliothèque. Et puis là, il est tranquille. Que personne n'entre. C'est la vie spirituelle qui l'emporte, qui prend tout. C'est vrai du matou. Il a sa vie spirituelle à lui, son développement de sa vie spirituelle, indépendamment de sa vie sensible. L'homme actif fait le lien entre les deux. La vie sensible et la vie spirituelle. Et la vie végétative aussi, hein, forcément. Mais il peut y avoir un certain développement de la vie spirituelle au-delà de la vie sensible, au-delà de la vie végétative. Au-delà, c'est-à-dire, ayant ces déterminations qui n'ont rien à voir avec la vie sensible et rien à voir avec la vie végétative, mais qui dépendent toujours dans l'ordre de l'exercice. Parce que si, ascète que vous soyez, vous aurez toujours besoin de manger, vous aurez toujours besoin de respirer, vous aurez toujours besoin donc de vous reposer. Alors là, vous avez donc une dépendance. Mais on sait très bien que certains peuvent aller très loin dans l'indépendance de la vie spirituelle par rapport à la vie végétative. Et dans la mesure où justement on arrive à se dominer, on peut arriver à se former de cette manière-là. Bon, ceci c'est pour vous montrer ces trois aspects de la vie. Tout ça dans la même arme. Voilà, c'est ça qui est un problème important, c'est de comprendre que nous pouvons distinguer trois degrés de vie à partir de la même arme. C'est ce que fait Aristote, mais ce n'est pas parce qu'Aristote le fait que je le refais. Je le fais parce que, de fait, si j'analyse ma diversité d'opérations, je suis obligé de reconnaître ça. La distinction des trois degrés de vie, elle est aristotélicienne, c'est vrai, elle est pythagoricienne, elle est très très ancienne. Cette distinction des trois degrés de vie, ça me semble s'imposer à moi comme une nécessité absolue. Dès que j'analyse l'indépendance et le degré d'indépendance de mes diverses opérations. Si je distingue les différents degrés d'indépendance, immédiatement, je peux préciser ces trois degrés. Bon, nous allons maintenant, si vous voulez, une fois qu'on a bien précisé ces trois degrés de vie, nous allons préciser, rappeler ces trois degrés de vie, nous allons maintenant entrer dans l'étude de la vie sensible. Cette vie sensible, c'est celle, d'une certaine manière, dont j'ai une conscience constante. Pas beaucoup d'efforts pour savoir que j'ai une vie sensible. Il suffit que quelqu'un vous marche sur le pied. Vous apercevez tout de suite. Hein. Faites une expérience tangible de quelque chose. Il suffit que quelqu'un vous donne la main avec un peu de force. Il suffit que quelqu'un vous renverse par terre. La vie sensible, pas besoin de réfléchir beaucoup, nous avons une vie sensible. Cette vie sensible est complexe, elle est anarchique, extraordinaire, elle est anarchique. Pas de finalité, j'atteins pas de finalité dans la vie sensible. Alors ça explique toutes les complexités qu'il peut y avoir dans la vie sensible. Alors je vais tout de suite essayer d'énumérer avec vous les différentes zones de la vie sensible. Ça je peux le faire, c'est anarchique mais il y a des zones. Il y a d'abord les sensations. Les sensations diverses. Tous d'abord des sensations diverses. Les cinq sens donnent cinq sensations diverses. Je ne l'étudie pas, nous l'avions vu l'année dernière, au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, je ne fais que rappeler l'importance de cela, puisque c'est de fait ici où je suis en présence de la connaissance fondamentale. La connaissance la plus fondamentale que j'ai, ce sont mes sensations. Jusque nouvel an. Ce sont mes sensations. Ce sont mes sensations plus fortes. Parce qu'il y a l'instinct. Parce que l'instinct est une connaissance. L'instinct est au-delà des sensations. C'est l'appétit naturel. Et dans l'appétit naturel, y a-t-il une connaissance? Je crois que dans l'appétit naturel, l'affectivité et la connaissance sont intimement liées. Et il n'y a pas au sens strict de connaissance. Il y a un appétit qui me fait tendre vers le bien. Mais il n'y a pas connaissance de l'autre comme tel, au sens tout à fait précis. Alors, les sensations, donc, sont les connaissances fondamentales, les connaissances qui impliquent des éléments sensibles et qui demeurent dans le sensible. À côté de ces sensations, il y a, dans le prolongement de ces sensations, il y a ce qu'on peut appeler une certaine réflexion. Réflexion sur ces diverses sensations externes, et alors commence ici les opérations de réflexion, donc le souvenir de ce qu'on a pu vivre, vit aussi, on pourrait dire, les prévisions du domaine affectif qui me donne soif de découvrir avant qu'on soit en face de la réalité. Donc il y a le domaine des connaissances fondamentales, des sensations externes et les diverses sensations externes. Mais il y a d'autres types de sensations. Il y a d'autres types de sensations. Ces autres types de sensations, c'est justement ce qui provient des sensations, ce sera la mémoire. La mémoire, phénomène de mémoire, par l'imagination. Entre ce domaine de la mémoire et de l'imagination, il y aura un jour. L'imagination permet à mes sensations de demeurer en moi. Je les porte en moi grâce à l'imagination. L'imagination va permettre de faire des liens entre une sensation et une autre sensation. Alors que la sensation par elle-même, c'est ponctuel. Je suis tout entier attentif à toucher. Dès que je regarde, mon toucher faiblit. Ça, c'est sûr. Si je n'avais aucun souvenir de mon toucher, je serais dans une très grande pauvreté. Pour les autres sensations, il faut pouvoir lâcher. Voir par là, et c'est du moins en là qu'on comprend ce que ça représente de porter en moi un ordre de ces diverses sensations. Donc je porte en moi ces diverses sensations par la mémoire. Alors, par la mémoire et l'imaginaire. Donc l'imaginaire me donne une indépendance plus grande que les sensations, mais l'imaginaire demeure encore quelque chose de dépendant, parce qu'il n'y avait pas d'imagination s'il n'y avait pas de sensation. Donc il y a une dépendance étroite entre le domaine des sensations et le domaine de l'imagination. Je n'ai pas de pouvoir direct sur mon imagination, tandis que j'ai un pouvoir direct sur mes sensations. Je peux arrêter mes sensations, tandis que je ne peux pas arrêter mon imaginaire. Alors, le phénomène très très curieux, c'est le sevrage des sens externes. Le sevrage des sens externes qui caractérise le noviciat fait fatalement que l'imagination va augmenter, va s'intensifier, parce qu'elle n'aura plus de nourriture. Quand l'imagination se nourrit de nos sensations, l'imagination est calme, paisible. Quand l'imagination n'a plus sa nourriture, elle devient farouche. Elle rugit. Et là, il y a des rugissements d'imaginaire, parce que l'imaginaire n'a pas sa nourriture, parce qu'on est dans un milieu fermé. Ce milieu fermé fait qu'on a toujours les mêmes têtes. Elles ne changent pas du jour au lendemain. Normalement. Nous nous changeons du jour au lendemain, intérieurement. Mais les têtes ne changent pas. Alors ça, c'est tout un phénomène d'impatience. C'est sûr. Parce qu'on voudrait que ça change aussi vite que les petits nuages du ciel. Alors c'est quelque chose qui demeure. Alors, l'imagination, donc, est quelque chose de très très spécial, très particulier, parce que dans l'imagination, nous sommes les maîtres, nous sommes les rois, dans l'ordre de l'imagination. Mais nous n'avons pas un pouvoir direct. J'ai mon monde imaginaire, qui est mon monde imaginaire, et ce monde imaginaire est infini. Alors, c'est infini le monde imaginaire, on ne peut pas le limiter. Il est illimité, tandis que le monde des sensations est limité. Alors, vous avez ce rapport entre les deux qui est très très important, parce que le domaine de l'imagination augmente en moi mon autonomie, mais en même temps diminue mon contact avec le réel. Mais il y a une augmentation, une diminution que fait l'imaginaire. Il augmente en moi les capacités que j'ai de réflexion, mais il me diminue dans ma dépendance à l'égard du réel, alors que mes sensations me font coller au réel. Alors, à côté de ce domaine des connaissances, il y a le domaine affectif. Le domaine affectif, c'est le développement au niveau sensible de l'affectivité. c'est le domaine des passions. Le domaine des passions, c'est l'affectivité passionnelle, l'affectivité sensible, qui se développe à partir de mes sensations, à partir de mon imagination. Il y a en fait un développement passionnel, imaginatif, qui est très particulier. Ça, on essaiera de le voir, parce que c'est ce qu'on commencera tout de suite la fois prochaine. À entrer dans cette seconde partie de la vie animale, tout le domaine des sensations, des passions.